oublie les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux, pour la première émission du mois de juin 2021. On est dans le studio, pour ne rien vous cacher, la climatisation n'est pas très efficace parce qu'il fait très très chaud dans le studio, mais ça ne nous empêchera pas de faire l'émission. Et ce soir, on va très longuement parler de la situation des droits humains en Colombie, parce qu'on a la chance d'avoir une invitée qui vient de Colombie, et c'est pour elle, c'est une grande première aussi pour passer à la radio. Elle s'appelle Maria. Et il y a aussi Juliane, que vous connaissez, que vous avez déjà entendu sur l'antenne de Principe Actif dans les émissions d'Amnesty. Voilà. Donc une heure pour parler des droits humains, de la situation des droits humains, des actualités, des campagnes, et donc de la situation des droits humains en Colombie, comme on vient de vous le dire. Pour commencer l'émission, je dois malheureusement, alors c'est pas de gaieté de cœur, mais je dois malheureusement vous faire part d'une nouvelle un peu dramatique, qui est en fait le décès d'une militante du groupe d'Évreux, que vous avez aussi déjà entendu sur l'antenne de Principe Actif lors de nos émissions, qui s'appelait Françoise, et qui venait souvent nous parler de, quand elle intervenait, qui venait souvent nous parler des droits des femmes et surtout des droits des enfants. C'était un peu sa spécialité, puisqu'elle était correspondante pour le groupe de la Commission des droits de l'enfant d'Amnesty France. Donc elle venait souvent et elle est morte de façon assez brutale le dimanche dernier, voilà, alors qu'elle fêtait ses 80 ans. Donc on lui dédie cette émission, bien sûr. C'est quelqu'un, moi personnellement, que j'ai toujours connu au groupe d'Évreux, puisque moi j'ai rejoint le groupe d'Évreux, je crois, à la fin des années 80, et Françoise y était depuis sa création en 1984. Donc voilà, c'était une militante infatigable, quelqu'un qui était toujours disponible pour toutes les manifestations, les foires aux livres, les expositions artisanales, la radio, les stands à droite et à gauche, enfin, etc. Et qui nous manquera beaucoup. Donc on pense bien à elle, on pense à sa famille, et puis encore une fois, cette émission-là, et puis la prochaine, et puis peut-être toutes les prochaines émissions qu'on fera sur l'antenne de Principe Actif, ce sera aussi en mémoire de Françoise. Moi je pense que Françoise, elle avait, en défendant les droits humains, elle avait choisi le bon côté de la force, pour reprendre une expression qu'on trouve dans La Guerre des Étoiles, je crois que c'est ça. C'est-à-dire la partie de l'humanité qui cherche à lutter pour la joie de vivre, pour les droits, pour la démocratie, pour la lumière, contre l'obscurité, la répression et la violence. Voilà, en gros. Donc, merci Françoise d'avoir passé beaucoup, beaucoup d'heures dans ta vie à lutter pour tout ça. Et on ne t'oubliera pas. Voilà. Donc, pour commencer l'émission ce soir, je vais, avant de parler de la Colombie, je vais vous lire un communiqué qui est... Je reprends mon petit papier, voilà. Un communiqué qui est très récent, qui a été publié hier par Amnesty International suite aux pays du G20. Et qui se sont réunis là récemment, je crois que c'était le week-end dernier ou le week-end d'avant, je ne sais plus. Et l'intitulé du communiqué, c'est « Les pays du G20 responsables à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Les gouvernements des pays les plus riches de la planète condamnent, de fait, des millions de personnes à subir la famine, la sécheresse et des déplacements en continuant à soutenir le secteur des énergies fossiles. Notre nouveau rapport, donc qui est paru hier, ça c'est le texte de présentation, notre nouveau rapport d'Amnesty qui s'appelle « Nos droits brûlent » présente un bilan accablant du manque de mesures à travers le monde pour protéger les droits humains face au changement climatique. Il montre que le droit relatif aux droits humains peut contribuer à obliger les gouvernements et les entreprises à rendre des comptes et leur indique la voie à suivre dans la lutte contre la crise climatique. Les pays riches se rendent responsables de graves violations. Les membres du G7 sont ceux qui historiquement sont responsables de la majeure partie des émissions de carbone et qui portent la responsabilité la plus lourde pour la crise climatique actuelle. Les pays du G20 sont collectivement responsables de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les pays riches et industrialisés sont aussi ceux qui ont le plus de ressources pour lutter contre cette crise. Pourtant, jusqu'à présent, leurs stratégies ont été terriblement insuffisantes et le soutien qu'ils ont apporté à d'autres pays quasiment inexistant. Seulement 7 pays du G20 ont présenté à l'ONU des objectifs de réduction de leurs émissions pour 2030 qui sont tous actuellement insuffisants pour maintenir l'augmentation des températures sous le seuil des 1,5°C. Les plans climatiques non ambitieux soumis par ces pays représentent une violation des droits humains de milliards de personnes. Il ne s'agit pas de défaillance administrative, mais d'une attaque catastrophique et massive contre les droits humains. En marge du sommet du G7, nous dénonçons le fait que les membres du G7 continuent de subventionner des entreprises qui exploitent le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Aucun plan crédible pour supprimer significativement d'ici 2030 la production et l'utilisation de tous ces combustibles fossiles n'a été mis en place. Tous les membres du G7 se sont engagés à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050, mais aucun d'entre eux n'a proposé de stratégie adéquate de réduction des émissions d'ici 2030, année où les émissions mondiales devront avoir été réduites de moitié afin d'échapper au pire en ce qui concerne la crise climatique. L'heure est aux actes. Les gouvernements des pays du G7 doivent s'engager à abandonner de façon inconditionnelle les énergies fossiles et atteindre le zéro émission de carbone à une date aussi proche que possible techniquement de 2030. Ils doivent mettre en place une réglementation stricte obligeant les entreprises à passer aux énergies renouvelables et cesser d'utiliser nos impôts pour subventionner le secteur mortifère des combustibles fossiles. Au lieu de réguler un secteur nocif, ils le subventionnent. Dans les faits, le soutien au secteur des énergies fossiles s'est poursuivi presque sans relâche depuis l'entrée en vigueur des accords de Paris. Pendant la pandémie, de nombreux pays du G20 ont accordé des mesures inconditionnelles de soutien économique aux entreprises du secteur des énergies fossiles et de l'aviation, tout en sachant parfaitement que le fait de subventionner ces entreprises allait porter préjudice à des millions de personnes. Les pays riches ont l'obligation d'aider les pays à faible revenu, y compris en fournissant des moyens financiers adéquats afin de soutenir la transition vers des énergies renouvelables, d'aider à protéger la population contre les effets des changements climatiques et d'apporter réparation pour les pertes et préjudices subis. Là encore, ils n'ont pas respecté leurs obligations. Jusqu'à présent, les 3/4 au moins des financements internationaux pour les questions climatiques n'ont pas été accordés sous la forme de subventions, mais de prêts. Cela signifie que les pays à faible revenu doivent utiliser leurs propres ressources pour couvrir des coûts liés au climat qui leur sont imposés par d'autres, au mépris des obligations en matière d'assistance internationale. Notre rapport souligne également l'importance d'une transition juste permettant de protéger les droits humains. Il met en garde contre le fait que de nombreux gouvernements tentent de prendre des raccourcis qui exacerberont les inégalités. Par exemple, les projets à grande échelle d'exploitation agricole de biocarburants visant à éliminer le carbone de l'atmosphère et les projets de conservation lancés dans les pays du Sud pour compenser les émissions des pays riches peuvent avoir une incidence négative sur la sécurité alimentaire et l'accès à la terre pour des millions de personnes. La décarbonation de l'économie est cruciale, mais en l'absence de garanties adéquates en matière de droits humains, les mesures prises risquent d'induire d'autres préjudices pour des groupes de personnes déjà en butte à la discrimination et à la marginalisation. Nous demandons à tous les gouvernements d'adopter et de mettre en œuvre des plans climatiques nationaux ambitieux, reflétant leur niveau individuel de responsabilité et leur capacité individuelle. D'ici à 2030, les pays riches doivent atteindre l'objectif zéro émission de carbone. Les pays à revenus intermédiaires ayant le plus la capacité d'agir, comme la Chine et l'Afrique du Sud, doivent viser à réduire de moitié leurs émissions. Les autres pays doivent viser le zéro émission d'ici à 2050. Pour ne laisser personne sur le bord de la route dans la lutte contre le dérèglement climatique, les États doivent garantir une transition juste pour les travailleurs, travailleuses et les communautés pâtissant du changement climatique et du processus de décarbonisation. Prendre des mesures pour réduire la pauvreté et corriger les inégalités existantes. Accorder la priorité à la protection sociale et l'investissement dans les énergies renouvelables produites de façon responsable. Soutenir la création de nouveaux emplois verts et dignes. Il n'existe pas de remède miracle pour sauver la planète et l'humanité. La seule solution consiste à mettre rapidement fin à l'ère des énergies fossiles. Voilà. Donc le rapport s'appelle « Nos droits brûlent. Les gouvernements et les entreprises doivent agir pour protéger l'humanité face à la crise climatique ». Voilà. Donc vous avez le rapport sur le site d'Amnesty, il est paru hier sur les sites d'Amnesty.fr, il est en première page, et vous pouvez effectivement lire l'intégralité de ce rapport. Voilà, et pour faire un petit commentaire de complément par rapport à ce communiqué, il y a également une information qui est parue très récemment sur le site d'Amnesty, qui parle de la situation de famine dans la partie sud de Madagascar, et c'est très directement lié à la désertification de cette île suite au changement climatique, justement. Alors, je vais juste vous lire le début, parce que ce serait trop long de tout vous lire, mais il dit la chose suivante. « Alors que le pays, donc Madagascar, connaît sa sécheresse la plus grave depuis 40 ans, une terrible famine sévit actuellement dans le sud de l'île. Les États étrangers et les responsables régionaux doivent renforcer l'aide humanitaire pour éviter une crise des droits humains. Les droits de plus d'un million de personnes y sont menacés. Des milliers de personnes risquent de souffrir d'inanition. » Et plus d'un million n'a pas accès à de la nourriture en quantité suffisante. La situation est désastreuse. Il faut entreprendre immédiatement une action régionale et mondiale coordonnée pour arrêter cette catastrophe qui pourrait rapidement devenir une tragédie humaine. La famine à Madagascar a atteint un niveau critique en septembre 2020, au début de la période de soudure, quand toute la récolte de l'année précédente a été consommée. Depuis 3 ans, la région est en proie à une sécheresse, la pire que le pays ait connue en 40 ans. Voilà. Donc, bon, après, il y a pas mal de chiffres. Hein. Bah, par exemple, effectivement, on estime à l'heure actuelle que au moins 135 000 enfants de moins de 5 ans présentent à Madagascar une maigreur extrême et une sous-alimentation dramatique, etc., etc. Bon, je vous renvoie au communiqué complet, là aussi, qui est sur le site d'Amnesty, mais c'est très directement lié, effectivement, à ce qu'on disait avant sur le réchauffement climatique. Et bien sûr, les Malgaches, un des pays les plus pauvres du monde, ne sont pas du tout parmi les pays qui polluent, entre guillemets, le plus, bien au contraire. Mais c'est eux qui sont touchés de plein fouet. Voilà. Donc, on va changer de continent, puisqu'on était à Madagascar et en Afrique. Et là, on va passer en Colombie, en Amérique du Sud, c'est ça, Maria ?
Oui, c'est ça.
C'est ça, très bien. OK. Alors, juste pour lancer la chronique et pour lancer la séquence, on va vous passer tout de suite une petite chanson.
Mañana ha despertado y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Una mañana he despertado y hemos sacado al impostor. Oh colombiano, vamos a la lucha. Ya Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Colombiano, vamos a la lucha. Vamos a salvar nuestro país. Y su gobierno
Voilà, de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. Et maintenant, on laisse la parole à Maria qui va vous parler, donc, et à Juliane qui vont vous parler de la situation des droits humains en Colombie.
La chanson nous montre la situation actuelle en Colombie, parce que dans tous les pays, il y a des manifestations contre la politique antisociale du gouvernement de Iván Duque. Bonjour à tout le monde, je me permets de me présenter. Je suis Maria Claudia Serrano. Je suis un avocat et je voudrais vous expliquer ce qui se passe en Colombie aujourd'hui. Après le 28 d'avril de 2021, les troupes colombiennes étaient dans la rue cette fois contre le projet de loi, ça veut dire une réforme fiscale du président de droit, Iván Duque. Ce projet de réforme fiscale a produit chez les Colombiens une indignation totale, car la réforme fiscale augmente les impôts pour la classe moyenne. Uniquement pour cette raison, le Comité national du syndicat et différents leaders sociaux ont décidé de se regrouper et de manifester pour ce que le gouvernement change ses lois et ses politiques antisociales. Après de la manifestation, le président Iván Duque a décidé de retirer le projet de loi, mais les gens sont restés dans les rues parce que ce n'était pas seulement le problème. En fait, en Colombie, il existe des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes politiques depuis de plus de 10 ans en raison de la crise politique. L'ancien président de la Colombie, c'était Álvaro Uribe Vélez. Il fait beaucoup de procès juridiques sur lui pour corruption. La Colombie est un pays qui a connu vraiment une guerre civile contre la guerrilla et les FARC. On connaît que là-bas, il y a vraiment la guerre civile partout. Et malgré l'accord de paix signé par l'ancien président Juan Manuel Santos en 2016, ça a produit vraiment des produits pas positifs et ça n'a pas marché en fait. Après de ces accords de paix, il y a des crimes de droit international et des droits contre les populations pauvres et vulnérables dans les conflits armés ont augmenté au cours des deux dernières années. De nombreuses personnes ont été déplacées en raison de la violence parce que les groupes armés se sont emparés des petits villages et des autres ont été victimes de tortures et de violences sexuelles.
Alors oui, justement Maria, par rapport à cette situation et à ce contexte, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément bien la situation en Colombie, ou du moins l'historique de la situation, est-ce que tu peux peut-être nous définir, nous expliquer un peu ce que signifie la guérilla et aussi les FARC, ces groupes armés, un petit peu nous en parler, nous retracer un peu l'historique de cette situation, s'il te plaît.
Oui, en fait, il faut connaître ce qui les FARC et ce qui la guérilla. Et, en principe, la guérilla, c'était un mouvement social d'origine marxiste, d'origine socialiste, en vue de la protection de la population. Mais après, ils ont changé des idées, ils sont convertis en un groupe armé, et c'est un groupe armé qui a commis beaucoup de délits par tout le pays. Après, il faut connaître aussi la FARC, que c'est un groupe armé qui était censé défendre des idées d'extrême gauche. Ça veut dire qu'en principe, la FARC a été créée pendant, durant 1966. C'est un groupe vraiment armé qui a commis aussi beaucoup de délits pendant tous les pays.
De crimes aussi, oui.
Aussi, il faut connaître que la Colombie s'est divisée par deux. S'est divisée par l'extrême droite. Ça veut dire le mouvement de Álvaro Uribe Vélez, ça veut dire le centre démocratique en français, le centre démocratique en espagnol. Et l'autre partie de la Colombie est divisée pour l'extrême gauche. Ça veut dire toutes les personnes qui ont une idéologie socialiste. Donc, en ce moment-là, c'est compliqué vraiment de dire qu'il y a une opposition contre le gouvernement parce qu'il a pris beaucoup le pouvoir. Et c'est le gouvernement d'extrême droite qui décide vraiment la politique du pays en ce moment-là. Alors, après de faire cette différenciation entre la guérilla et les FARC, aussi moi, je voudrais aussi parler sur la situation actuelle qui se passe en la Colombie, parce qu'en fait, malheureusement, on ne connaît pas vraiment la réalité, on connaît seulement, peut-être entre guillemets, la situation sur la pandémie de la COVID, mais on connaît vraiment la situation de la grève nationale. En fait, en Colombie, en ce moment-là, le salaire minimum est très faible et on a des problèmes de malnutrition et par la période de la pandémie, il y avait beaucoup de discrimination contre les personnes pauvres. Le gouvernement a décrété un plan de réforme en ce qui concerne le travail et la santé. Mais la crise s'est accentuée dans tous les pays parce que les personnes ne sont pas d'accord avec ces politiques socio-économiques. Et c'est vrai que c'est une politique qui touche beaucoup à la classe moyenne. En fait, il faut connaître qu'en Colombie, il y a vraiment une division de classe. Il y a la classe plus riche et la classe plus pauvre. Donc, ces législations, ces lois touchent beaucoup à les personnes qui sont plus pauvres par rapport à les personnes qui sont plus riches. Donc, je crois que ces grèves nationales, c'est un mouvement qui a explosé depuis de beaucoup de choses qui ont augmenté la situation et qui se sont développées pendant beaucoup d'années. C'est pour ça que les personnes sont dans la rue et en train de manifester et en train d'aller contre le gouvernement d'extrême droite. C'est ça, qu'est-ce qui se passe en Colombie en ce moment-là. Ce n'est pas seulement parler d'un mouvement politique, c'est surtout connaître qu'il y a vraiment des violations des droits humains là-bas, commis par la police et commis par le gouvernement d'extrême droite.
D'accord. Alors, on parlera, je pense, après, plus des causes de ces manifestations. Mais déjà, ces manifestations qui ont débuté, donc on le rappelle, le 28 avril dernier, est-ce qu'elles étaient prévisibles? Et est-ce que la Colombie, par le passé, a connu déjà des mouvements sociaux de cette ampleur? Ou est-ce que c'est plutôt inédit?
Alors, je crois que c'est plutôt inédit, en fait. Et on ne connaît pas vraiment une grève nationale comme la grève qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois, ça me touche beaucoup parce que c'est la première fois qu'on a vu par la télé, par les réseaux sociaux, et tous les Colombiens en train de manifester, en train de dire que ce n'est pas juste ce qui se passe en ce moment-là. Et c'est vrai que la Colombie, ce n'est pas un pays très connu par la manifestation. Peut-être que c'est un pays que c'était touché vraiment pour la corruption, pour le paramilitarisme, pour la drogue, pour beaucoup de choses qui ne sont pas d'un bon côté. Donc je crois que c'est la première fois qu'on voit dans la rue beaucoup de personnes, beaucoup de mouvements sociaux qui sont intéressés à montrer vraiment la situation, montrer vraiment qu'il y a des violations partout. Et en Colombie, malheureusement, il n'y a pas vraiment un bon système de sécurité. Il n'y a pas vraiment un système de sécurité et de santé. Il n'y a pas vraiment un bon système d'éducation. Il n'y a pas vraiment un bon système de protéger les personnes qui sont vulnérables, comme les Indiens. Donc, je crois que ça, c'est la première fois qu'on a vu vraiment un mouvement comme ça en Colombie. Aussi, c'est possible de donner des exemples sur la crise qui se passe en Colombie en ce moment-là. On peut parler aussi que la majorité des personnes qui sont dans la rue en ce moment sont des jeunes, sont des universitaires, sont des professionnels, sont des professeurs, sont vraiment des personnes qui ne sont pas intéressées à un mouvement politique, à montrer une situation politique. Ils sont intéressés vraiment à un changement de politique sociale, c'est ça. Et on peut parler avec un jeune de, je sais pas, de 18 ans ou 19 ans, et on peut lui demander s'il a vraiment l'opportunité de trouver une place dans une université privée, et ce n'est pas possible. En Colombie, l'éducation supérieure, ça veut dire l'enseignement supérieur, la formation supérieure, c'est très cher. La université là-bas, privée, c'est très cher. C'est vrai qu'il y a vraiment une comparaison par rapport à les autres pays. Et l'éducation publique, c'est pas de facile accès. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de places là-bas. Donc, les étudiants sont en train de trouver des moyens pour accéder à l'éducation. Les autres sont pauvres, sont pas des moyens économiques pour financer ces études, pour payer les droits d'inscription. Donc, ils sont en ce moment-là dans la rue pour dire au gouvernement, s'il te plaît, changer les lois. S'il te plaît, donner l'opportunité de voir vraiment en place pour faire un niveau professionnel. C'est ça.
Donc, ce que tu veux dire, parce que moi je t'interromps, c'est que ça touche vraiment tout le monde et que les gens manifestent et dénoncent leurs conditions de vie, leur vie quotidienne, et que ce n'est pas nécessairement des militants, des activistes, des personnes déjà engagées en politique. C'est vraiment, ça touche tout le monde. Et il y a vraiment un rassemblement autour de ces sujets.
Et oui, c'est ça, c'est ça. Finalement, on peut conclure avec ces situations-là que ce n'est pas vraiment un mouvement politique. C'est tout le monde qui est en train de manifester, en train de dire que vraiment il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas en Colombie en ce moment. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de loi, de législation. Malheureusement, je vais dire à tout le monde qu'en Colombie, il y a beaucoup de corruption à l'intérieur du gouvernement, à mon avis. Le problème, c'est que le Sénat ne prend pas vraiment des lois, des législations qui protègent à toute la population. Il y a la discrimination, donc malheureusement, en Colombie, il y a la discrimination partout. Donc, une personne qui est pauvre ne peut pas accéder à une place à l'université ou pour trouver un bon boulot. Donc, c'est tout le monde qui est en train de se manifester et de dire « basta ». Et s'il te plaît, il faut changer vraiment la politique sociale, c'est ça.
Oui, quand tu dis que ce n'est pas politique, que ce n'est pas un problème politique, tu veux dire plutôt que ce n'est pas des oppositions entre des partis politiques. Voilà, ouais. Que c'est vraiment un mouvement social, enfin, populaire. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Comment les médias colombiens, face à cette situation, réagissent ? Est-ce qu'ils sont inquiétés aussi pour leurs idées, pour la diffusion de leurs idées ? Est-ce qu'il y a une opposition dans les journaux, etc. ?
Malheureusement, il n'y a pas vraiment une opposition en Colombie en ce moment-là. Malheureusement, les médias sont complètement focalisés sur le COVID, sur les mouvements de contestation, etc. Mais finalement, les chiffres du nombre de personnes qui sont tuées dans la rue à cause de la police, on ne les connaît pas. On les connaît grâce à l'association internationale et grâce à les réseaux sociaux. Finalement, moi, je me suis dit aussi personnellement qu'on ne connaît pas vraiment la situation qui se passe dans la rue. Et on peut regarder sur les journaux de la Colombie, ils sont des journaux privés payés pour les gouvernements qui ne sont pas intéressés à montrer la réalité, à montrer comment un jeune est intéressé à sortir, à manifester, était tué directement par une personne de la police. Donc, finalement, les médias ne parlaient jamais du droit à manifester, qui est un droit constitutionnel, en fait. Il faut connaître que la Colombie, c'est un pays, entre guillemets, de droit. Donc, c'est l'État qui a les médias pour protéger la population et pour donner vraiment l'opportunité de manifester, parce que c'est un droit constitutionnel. C'est un droit que vraiment c'est écrit dans la Constitution de la Colombie, dans son article 38. Mais ça ne s'est pas marché comme ça en la réalité. Donc, si on parle avec un Colombien qui est en train de marcher dans la rue, on va regarder que c'est vrai, le gouvernement ne donne pas une protection réelle. C'est ça.
Bah ça, oui, on parlera de toute façon. Est-ce que c'est ce qui a été repris dans les rapports d'Amnesty International, par exemple, sur l'usage abusif, l'usage excessif de la force par les forces de police. Donc là, encore, on parle de manifestants tués, qui sont tués, donc usage de balles réelles. Ensuite, j'ai une autre question. Comment réagit la communauté internationale ? Donc là, au-delà des organisations internationales, des ONG.
Grâce à les médias internationaux et à l'association internationale, on connaît vraiment la situation de la Colombie. Par exemple, la ONU, les États-Unis et l'Union européenne et les organisations internationales ont dénoncé de graves excès commis par la force publique en Colombie. Ça veut dire que c'est la Union européenne, à travers de son Parlement, qui a donné une information sur la situation réelle et sur la violence commise par la police, surtout pour la force armée. Donc, je crois que vraiment, les organisations internationales sont en train de montrer la réalité et la vérité de la situation.
Oui, des organisations indépendantes. Contrairement aux médias qui ne diffusent pas forcément tout ce qui se passe.
Oui, c'est ça. Il faut connaître aussi qu'en Colombie, en ce moment-là, il y a plus de 61 personnes qui ont été tuées depuis le début de la manifestation. Ça veut dire que les médias colombiens privés ne montrent pas réellement combien de personnes sont tuées par la police. Donc, on les connaît grâce à les mêmes manifestants qui sont en train de enregistrer ce qui se passe en le moment, comment la police frappe à les civils, comment la police et aller contre les manifestants et comment vraiment la police a commis beaucoup de délits contre les droits fondamentaux. Donc aussi, il faut connaître que la CEDH, ça veut dire la Commission interaméricaine des droits de l'homme, on a fait une investigation sur la situation de la Colombie la semaine dernière. C'est la CEDH, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, est intéressée en fait un travail sur la violation des droits humains là-bas et montrer vraiment combien de personnes sont tuées dans la rue par la police. En fait, aussi, il faut connaître que c'est pas seulement l'homicide qui a commis la police. La police a commis beaucoup de délits. La police a commis des viols, des harcèlements sexuels contre la femme, des abus de police, des homicides. Et c'est vrai que ça touche beaucoup à tout le monde. Il faut connaître aussi que pendant la manifestation, il y avait une jeune femme qui est en train de enregistrer toute la manifestation et la police l'a arrêtée à la garde de vous, l'a violée, a commis sur elle beaucoup de délits. Après, elle a sorti... Elle a sorti après de la garde de vous. Elle était chez elle. Elle était vraiment très déprimée. Et à cause de ça, elle s'est suicidée. Donc, c'est triste vraiment de connaître qu'en ce moment-là, la police commet beaucoup de délits très graves sexuels contre la femme. Et c'est vraiment des féminicides. Donc, il faut connaître aussi que ça, c'est une situation très grave qu'il faut connaître de là-bas.
Voilà. Oui, finalement, là, on est dans une situation de non-droit. On n'est plus dans un état de droit qui s'appuie sur des règles édictées qu'il ne respecte pas, finalement.
Ouais,
et oui, donc... Donc, il y a ces meurtres, ces viols, ces disparitions forcées. Donc là, on ne peut même pas savoir quel nombre de personnes concernées.
Ouais.
Au-delà de ça aussi, tout ce qui va être arrestation arbitraire. Donc, vous n'avez rien fait de mal, vous manifestez ou quoi que ce soit et vous êtes arrêté sans motif. Est-ce qu'on passe la pause musicale maintenant?
Oui, je me posais la même question parce que Maria est partie sur sa lancée. On comprend très bien effectivement que tout ce qu'elle raconte lui tient à cœur et c'est très intéressant et ça correspond effectivement. Moi, j'ai lu aussi avant l'émission le dernier article sur le site d'Amnesty sur la situation en Colombie et on retrouve énormément de choses que vient de nous expliquer Maria. Mais effectivement, pour reposer un peu les oreilles des auditeurs, on va vous passer quelques minutes de musique et on se retrouve juste après.
No hay una vida que no nos duela, cada lamento lleva una pena, y aunque la suerte las abandone, no hay una madre que no la llore.
Primera línea. Mi canto grita.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour Évreux, pour la suite de son émission sur les droits humains. Et c'est Maria qui va vous présenter la chanson qu'on vient d'entendre.
Ah, merci beaucoup. Oui, il faut connaître que la personne qui a fait sa chanson, elle s'appelle Adriana Lucia, en espagnol. Elle est intéressée pour montrer vraiment ce qui se passe aujourd'hui en Colombie et elle montrer que ça touche beaucoup à toutes les populations colombiennes. Ça veut dire que nous sommes vraiment intéressés en montrer qu'il y a des violations des droits humains par rapport de la police. Voilà, c'est ça.
Bah, merci Maria pour cette découverte musicale. Moi, je ne connaissais pas du tout, tu vois.
Non, moi non plus.
C'est joli.
Moi non plus. Jusqu'à cet après-midi, je ne connaissais pas.
Alors maintenant, on va enchaîner un peu sur la question de la justice, de l'accès à la justice. Est-ce qu'il existe un système d'accès à la justice efficace ? Je pense que le suspense est un peu déjà gâché, hein. On connaît un peu la réponse, mais c'est pas grave, on pose la question quand même. Alors justement, donc, est-ce que la justice a son mot à dire ? Est-ce que le gouvernement colombien actuel est inquiété en raison de ces répressions à l'encontre de la population civile ou pas ? Est-ce qu'il existe une justice spéciale ? Est-ce que des enquêtes sont en cours, comme tu disais, des investigations ?
Et il faut connaître qu'avant de montrer le point de vue du gouvernement, il y a un tribunal de paix qui a été créé grâce à l'accord de paix signé en 2016. Ce tribunal de paix montre vraiment la situation qui passe en Colombie avec les victimes de la violence armée et avec les victimes de les groupes armés, en fait. C'est le tribunal de paix, qui montre vraiment ce qui se passe en Colombie en ce moment-là. Mais il faut connaître aussi, dans les points juridiques, qu'il y a des violations des droits humains. Et ces violations sont commises par la police. Donc, la première, c'est l'usage excessif de la force par la police contre les manifestants. Et la deuxième chose, il faut connaître aussi que la violence sexuelle contre les manifestants, surtout contre les femmes, en Colombie, se montre par tous les pays. Ça importe la région ou la ville, et aussi des civils et des personnes dont la rue sont gravement blessées. Il faut connaître aussi qu'il y a la violence, surtout en Bogota, que c'est la capitale, Cali et Medellín. Donc, sont très, très villes et très touchées par la violence policière. Et aussi connaître aussi que le gouvernement ne permet pas vraiment de connaître la situation. Donc, peut-être il y a des enquêtes contre la police, mais sont des enquêtes que peut-être se connaît pas beaucoup et peut-être au niveau de l'institution, il y a des corruptions. Donc, on jamais vraiment voir si c'est arrêté ou pas ces violences. Donc, il faut connaître aussi un rapport d'Amnesty International qu'elle a fait en avril de 2021 pour montrer vraiment comment se passe la situation en la Colombie. Et il faut connaître aussi qu'il y a des violences contre les manifestants, contre la femme et contre les jeunes. Contre les jeunes et contre toute la population. Donc, il faut tenir en compte que sa violence est commise par le gouvernement, pas directement pour lui, mais c'est lui qui décide de sortir la police, de sortir les SMAT contre les manifestants. Donc, il faut connaître, qu'il y a des violations à droits fondamentaux contre la population colombienne. Et il y a vraiment une vulnération au droit à la vie, au droit à la liberté de manifester, des violations au droit de la réunion pacifique et une violation contre l'intégrité de la personne. C'est ça qu'il faut connaître vraiment de ce moment de la Colombie.
Justement, après peut-être que Didier aura aussi des questions. On ne va pas monopoliser la parole pendant une heure. Par rapport à ça, justement, j'ai perdu ma question. Bon, c'est pas grave, on enchaîne sur autre chose. Les garanties judiciaires. Oui, est-ce que tu as des chiffres, par exemple, là, du nombre d'enquêtes qui sont menées? Voilà, des exemples un peu. J'imagine que c'est à l'initiative des familles, des victimes.
Oui, normalement, c'est la famille des victimes qui cherche la justice partout. Il y a des numéros. Et il y a 54 enquêtes pour faute disciplinaire contre la police. Il y a 1000, vraiment, imagine ces quantités. Il y a 1000 personnes qui sont blessées par la police. Il y a 68 personnes qui sont tuées par la police. Il y a 2 cas de femmes qui sont violées par la police. Donc, il y a quand même un grand numéro de enquêtes contre la force armée.
D'accord, mais est-ce que ces enquêtes, elles sont importantes par rapport au nombre d'exactions?
Non.
De violations qui sont commises?
Non, je crois pas.
J'ai retrouvé ma question entre deux.
Ah ouais, dis-moi.
Enfin, c'était plus un commentaire sur le fait de... on devrait peut-être rappeler aussi que la plupart des manifestants sont pacifiques. Et que ce que met en avant le gouvernement, c'est, a priori, de ce qu'on entend, que ces manifestations sont violentes, qu'il y a des dégradations qui sont commises à l'encontre des biens publics, qu'il y a un trouble à l'ordre public, et donc que l'argument sécuritaire est utilisé pour réprimer les manifestants. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être encore, nous dire quelques mots là-dessus, si
ouais.
tu veux.
Ouais, rapidement, je vais dire que c'est pas logique pour moi que le gouvernement n'est pas capable de protéger sa population, de donner vraiment un moyen pour protéger les droits fondamentaux. Et à mon avis, personnellement, je crois que le gouvernement s'intéresse beaucoup en protéger les biens sociaux, ça veut dire les endroits publics, les magasins, tout ça, mais il jamais s'intéresse en protéger vraiment la personne, la vie. Il faut quand même connaître que pour moi et pour tout le monde, je crois que c'est plus important la vie humaine qu'un bien, donc c'est pas logique à mon avis.
Alors c'est le cas pour toi, et je pense qu'on est d'accord aussi,
oui.
Didier. Et puis les traités internationaux, les conventions sont aussi d'accord. Hein. La vie
oui, oui.
se place au-dessus des biens immobiliers, etc.
Ou elle devrait. Elle devrait.
Ou devrait. En tout cas, c'est ce qui est censé être le cas, oui.
Oui, tout à fait. Bon, on va devoir passer à la suite de l'émission, même si c'est tout à fait passionnant d'écouter Maria, et encore une fois. Parce que tout ce que vient de dire Maria, moi j'écoutais effectivement avec beaucoup d'attention. Là aussi, j'ai lu avant l'émission le dernier rapport annuel d'Amnesty qui date de l'année dernière sur la situation en Colombie, enfin le rapport annuel sur tous les pays du monde et le chapitre consacré à la Colombie. Enfin, c'est pas une question, c'était juste un commentaire que je voulais faire. C'est dans ce rapport, il est question aussi des destructions par l'armée avec des défoliants des champs de coca en Colombie. Et bon, on est tous d'accord effectivement que produire de la cocaïne sur un plan humain et sur un plan moral, c'est pas top, ça c'est tout à fait évident. Mais Amnesty insiste sur le fait, et on n'est pas les seuls à le dire, que de toute façon, c'est pas une solution non plus que de détruire avec des défoliants qui sont en plus une catastrophe pour l'environnement, les cultures de coca.
Toxique.
Si ouais. on ne propose pas des solutions viables et comment dire, et économiquement rentables, pour les cultivateurs de produire d'autres denrées, du café ou je sais pas quoi, et qui sont effectivement là du coup des cultures qui ne présentent pas les mêmes problèmes que la cocaïne, mais que si on se contente de détruire manu militari en portant atteinte à l'environnement ces champs de coca, on ne résout rien, parce qu'à l'heure actuelle effectivement pour beaucoup de paysans en Colombie, produire de la cocaïne, ça reste la culture la plus rentable. Donc voilà, c'est aussi faut appeler aussi un chat un chat. Donc si on ne permet pas effectivement aux gens de vivre décemment de leur production en cultivant des produits sains pour tout le monde, eh bien ils continueront effectivement, ce n'est pas parce qu'ils en ont envie, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement, de produire des cultures toxiques. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi bien se rendre compte de cette réalité-là. Donc il y a quelques mots dans le rapport d'Amnesty donc sur la situation en Colombie, effectivement, qui porte atteinte à ça, c'est sur les droits économiques et sociaux. Donc c'était juste un commentaire que je voulais rajouter. Sinon, tout ce qu'a dit Maria, effectivement, c'est tout ce qu'on retrouve aussi dans les publications d'Amnesty, bien évidemment. Et bon, encore une fois, les atteintes aux droits humains en Colombie, c'est quelque chose de récurrent et de dramatique beaucoup trop souvent.
Oui, et que la résolution des problèmes se fait par la répression, par la violence,
oui.
et jamais par le dialogue, par la communication et par l'écoute des parties concernés, quoi.
Bah, c'est d'ailleurs pour ça que les problèmes ne sont jamais résolus, en fait, parce que c'est une non-solution, quoi, de toute façon. C'est perdu à l'avance. Malheureusement, c'est tout ce qui est utilisé. Enfin, il n'y a malheureusement pas qu'en Colombie, hein, je veux dire, c'est assez universel. Enfin, en Colombie, c'est quand même pas particulièrement gratiné, pour employer un mot. Je ne sais pas si Maria va comprendre, mais gratiné, voilà, assez caractéristique. On va juste terminer cette mission un peu spéciale Colombie par un petit rappel. On a déjà eu une personne qui venait de Colombie qui est intervenue sur l'antenne de Principe Actif dans le cadre de nos émissions. Cette personne s'appelle Renzo Alexander Garcia. Alors, je suis désolé pour mon accent parce que je ne parle pas du tout espagnol. Mais donc, il était venu parce qu'il faisait une petite virée en France pendant plusieurs mois. Il avait été invité par Amnesty International France pour un colloque, enfin un sommet, voilà, des défenseurs des droits humains à Paris. Et il était resté quelques temps, il avait fait un petit voyage en France. Il était passé par Évreux à l'invitation de notre groupe et il avait participé à une émission de radio. Alors lui, il était spécialisé pour les droits sociaux en Colombie et il travaillait pour une association qui défendait en fait le droit à la terre contre des projets miniers de recherche d'or, enfin, etc., et qui portait gravement atteinte à la survie de la population de la province où il habitait. J'avoue que le nom de la province m'a échappé. Mais voilà, donc il expliquait sa situation aussi, et c'est tout à fait complémentaire avec ce que vient de dire Maria, et que l'émission, vous pouvez toujours la réécouter, j'ai vérifié, c'est l'émission du 27 novembre 2018, et donc elle est toujours sur le site de Principe Actif, dans les podcasts de la rubrique Amnesty International, elle est toujours réécoutable, et donc vous avez l'interview, alors lui c'était en espagnol, mais elle était traduite par un ami en même temps. Donc voilà l'interview de Renzo Alexander Garcia. Donc on est très heureux d'avoir pour la deuxième fois aujourd'hui une invitée colombienne.
Merci.
Voilà. On va écouter juste quelques secondes de musique. Alors pour rester dans l'ambiance sud-américaine, j'ai amené un morceau de Manu Chao. juste quelques secondes de musique parce que le temps passe très vite. Après, on va vous faire un petit appel à l'action, nous, trois bonnes nouvelles et les infos locales. Et ce sera l'heure de conclure.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Manu Chao nous pardonnera d'avoir un petit peu écouté son morceau. Donc voilà, et on va donc passer à la dernière partie de l'émission, toujours avec Juliane et Maria. Maria qui nous vient. Maria qui remet son petit plastique de protection anti-Covid sur le micro.
D'où le bruit, discrètement.
D'où le bruit vous avez entendu à l'antenne.
Attends, je rajoute c'est moi.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, mes deux invités se livrent à des. Voilà, sont très, très dissipés tout d'un coup.
C'est vrai, c'est l'heure.
Donc voilà. Alors, comme on a aussi l'habitude dans nos émissions, c'est de proposer un appel à l'action. Donc, ben, on va rester dans le cadre de la Colombie, puisqu'il y a toujours il y a aussi une pétition à signer, puis il y a également des courriers si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, vous nous passez votre adresse mail
sur l'adresse mail du groupe d'Evreux, evreux@amnestyfrance.fr. Et donc, c'est pour défendre une Colombienne aussi qui s'appelle Janie Silva. Et donc, il y a aussi la pétition qui est en ligne sur le site. Alors, je vous lis juste pourquoi on la défend. Avec courage, Janie Silva a dédié sa vie de paysanne à lutter pour l'environnement en Amazonie. Elle a cofondé en 2008 l'Association pour le développement intégral et durable de la Perla Amazonica, qui défend les droits de plus de 1200 paysans et paysannes vivant dans la zone de réserve paysanne de la Perla Amazonica en Amazonie. En raison de son travail, elle a été victime d'au moins 7 incidents la mettant en danger au cours des 14 derniers mois et sa vie est menacée en permanence. Alors, si vous voulez faire la lettre, c'est envoyé aux autorités. En tant que membre d'Amnesty International ou sympathisant, je vous exhorte à assurer pleinement la protection de Janie Silva et des membres de l'ADISPA pour qu'ils soient en mesure de poursuivre leur travail de défense de l'environnement. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Voilà. Donc, si vous voulez faire la lettre, vous nous envoyez votre adresse mail et on vous la renvoie toute faite. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous contenter de signer la pétition sur le site d'amnesty.fr. Elle s'appelle Janie Silva, J-A-N-I-S-I-L-V-A. Voilà, et elle est aussi colombienne. Et puis, quelques bonnes nouvelles. Donc, je vais vous lire la première, et puis il y a Juliane qui va prendre la suite. Donc, en Turquie, un journaliste écrivain libéré. Ahmet Altan est libre après 4 ans de réclusion. À la suite d'une décision de la Cour de cassation, ce journaliste et écrivain a quitté le 14 avril, c'était le jour de mon anniversaire, la prison d'Istanbul où il était incarcéré depuis 2016 pour des liens supposés avec le coup d'État manqué de la même année. Il a retrouvé ses enfants et sa maison. Alors il a dit « Je ne sais pas ce que je ressens, tout s'est passé si vite. Je ne sais même pas exactement pourquoi je suis sorti. » La détention du fondateur du journal d'opposition Taraf, donc c'était lui, était devenue un symbole des atteintes à la liberté d'expression en Turquie. Et donc c'est Juliane qui va vous lire une autre bonne nouvelle.
Alors, une actualité du mois de mars. Alors, je ne sais pas si on entend bien.
Bah, relax si pour si Cédric Héroux. Si tu parles dans le micro, on t'entendra bien.
Attends. C'est bon ?
C'est bon, c'est bon.
C'est une belle victoire pour le principe de fraternité. La Cour de cassation a prononcé le 31 mars la relaxe définitive de Cédric Héroux. L'agriculteur de la vallée de la Roya avait aidé et hébergé des personnes demandeuses d'asile en France. Condamné en appel en 2017, il avait été relaxé une première fois en mai 2020. Mais le parquet général de Lyon s'était pourvu en cassation. La relaxe du militant met un point final à plus de 4 ans de harcèlement judiciaire.
Voilà.
Et je te repasse la chronique.
C'est ça. Et donc, je vais en dire un petit mot après de la chronique. Donc, la dernière bonne nouvelle, donc c'est dans la chronique de ce mois-ci. Ça concerne l'Égypte et ça s'appelle Libération au compte-gouttes. Alors, déjà, le titre, hein, vous comprenez bien que pour nous, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est déjà quelque chose. Khaled Daoud, figure de la dissidence égyptienne, emprisonnée depuis septembre 2019, a été libérée le 13 avril. Le lendemain, un couple de jeunes journalistes, Hossam El Sayed et Solafa Magdi, je sais qu'on avait fait un appel pour la défendre il n'y a pas si longtemps, bénéficiaient eux aussi d'une libération après 17 mois de détention provisoire. C'est évidemment un soulagement, estime Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International. Mais il reste des milliers de voix critiques dans les geôles égyptiennes. Plus que jamais, la pression doit donc être maintenue pour que le régime du président Al-Sisi cesse d'utiliser sa législation antiterroriste pour réprimer la liberté d'expression. Donc voilà, bonne nouvelle, mais pas suffisant.
Là-dessus, c'est moins de bonnes nouvelles. Le militant Rami Chat, il me semble, qui justement est encore emprisonné. Oui. Et là encore, vous avez une pétition. Oui. Je crois que c'est jusqu'à la mi-juin pour la signer,
pour
la libération de ce militant. Égyptien aussi.
Tout à fait. Qui est en prison alors qu'il n'a commis absolument aucun délit. Pendant qu'on parlait de la chronique, oui, ça me fait penser à ça. On n'aura pas le temps d'aborder cet article, il est beaucoup trop long. Mais encore une fois, la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. Hein, vous pouvez l'obtenir en vous abonnant sur le site. Hein, c'est très facile de trouver la page. Et c'est l'interview de Christophe Deloire, qui est le directeur général de Reporters sans frontières, association internationale de défense des journalistes. Qui est une association qu'Amnesty connaît bien. Et il fait un entretien sur les évolutions de la liberté de la presse dans le monde. Ce n'est pas vraiment optimiste. Il fait un lien aussi avec la situation de la pandémie et le Covid, qui ont servi aussi à un certain nombre d'États à réprimer encore plus les journalistes à droite et à gauche, sous des raisons qui n'ont rien à voir avec la maladie,
avec la pandémie, mais qui ont servi de prétexte pour les États pour censurer encore un peu plus. Et donc, effectivement, cet article, il est trop long pour que je vous en parle ici, mais il est très, très argumenté et très, très bien fait. Voilà, c'est dans la chronique d'Amnesty International de ce mois-ci, et c'est l'interview de Christophe Deloire de Reporters sans frontières. Voilà, on va toucher, au bout de l'émission. Notre actualité locale, c'est la prochaine émission et la dernière émission de la saison, d'ailleurs, avant la pause estivale. On se retrouvera bien sûr au mois de septembre. Ce sera le mardi 26 juin à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif, tu disais, Juliette ?
Non, je croyais que c'était le 29, non ?
Ah, 29, tu dis quoi, 26 ?
Ouais.
Oh, ben voilà. Il fallait bien que je dise une bêtise avant la fin, c'est normal, il y en a toujours une. Mardi 29, pas le 26, effectivement, le mardi 26 juin, il n'existe pas cette année. Mardi 29 juin, donc voilà. Et puis un autre rendez-vous, alors qu'on vous confirme, on en avait parlé un tout petit peu, mais c'était pas certain à la dernière émission, maintenant ça l'est, puisqu'on a eu la confirmation qu'on pouvait l'organiser. On organise une foire aux livres le dimanche 4 juillet, donc de 10h à 17h, devant le local d'Amnesty, donc sur le parking, avec des tentes et des tables, en espérant que le beau temps soit avec nous, mais il n'y a pas de raison. Donc une foire aux livres, aussi pour venir aussi, au-delà d'acheter des bouquins d'occasion et un prix modique, venir aussi nous soutenir et signer les pétitions et vous informer sur les actions d'Amnesty. Donc le dimanche 4 juillet, évidemment l'entrée est libre et gratuite, il n'y a pas de souci, et ce sera de 10h à 17h à l'espace Saint-Léger, ce qui se trouve à la sortie d'Evreux quand vous allez vers Cap-Caire, enfin, etc. C'est au dernier rond-point. Voilà.
Est-ce qu'on précise qu'on a besoin de bénévoles pour
oui, on précise
et installer?
Donc voilà, si vous avez l'envie de nous filer un coup de main pour installer tout ça, on installe le matin, on démonte le soir, bien sûr. Nos locaux sont juste à côté, c'est quand même plus pratique, mais bon. N'hésitez pas à nous contacter. Donc on vous rappelle le mail du groupe evreux@amnestyfrance, avec un Y à Amnesty France tout attaché. .fr, evreuxamnestyfrance.fr.
Ou la page voilà. Facebook.
Ou la page Amnesty Facebook, tout à fait, on va annoncer l'événement, enfin, etc. Et, tout à fait, page Facebook ou Instagram. Page Facebook, c'est Amnesty International Evreux, et Instagram, c'est...
Amnesty.evreux.
Voilà. On remercie Maria.
Donc, merci beaucoup merci à tout beaucoup. Le monde.
C'était très très sympa de voir Maria et de voir la situation en Colombie expliquée par une Colombienne. Donc ouais. Ça c'est quand même quelque chose d'important. Précieux. Et puis on laisse la place au laboratoire et on se retrouve donc le 29 juin. À bientôt.
À bientôt et merci
Bonne
beaucoup.
Soirée.
Gracias.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.